Vous écoutez On lit pour vous.
Sur Polymarket, le top 1% rafle le gros des gains. Un texte de Clémence Pavic, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir. Vous pensez pouvoir faire de l'argent grâce au marché prédictif? Pensez-y deux fois. Sur la plateforme Polymarket, la très grande majorité des gains sont accaparés par une infime poignée d'utilisateurs, montre une nouvelle étude. Le reste se dispute des miettes. Et dans la plupart des cas, ils encaissent des pertes. Polymarket est l'une des plus grandes plateformes de marché prédictif au monde. Les utilisateurs peuvent y parier sur toutes sortes de sujets reliés au sport, à la politique, à l'économie, à la météo et au divertissement. Mais qui profite vraiment de ce genre de pari? Une étude publiée début avril révèle qu'environ 1% des utilisateurs de Polymarket raflent près de 84% des profits réalisés sur la plateforme. L'étude a été menée par des chercheurs de HEC Montréal, de l'Université de Toronto et de l'ESSEC Business School de Cergy, en France. Ceux-ci ont passé en revue 70 millions de transactions sur Polymarket réalisées par 1,4 million d'utilisateurs entre 2022 et 2025. Le volume de transactions analysées s'élève à 20 milliards de dollars américains. Traders aguerris contre amateurs. Ceux qui font de l'argent, ce sont des traders aguerris. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, indique Vincent Grégoire, co-auteur de l'étude et professeur au département de finances de HEC Montréal. Les comptes les plus prolifiques sont les fournisseurs de liquidités, explique-t-il. Ces utilisateurs disposent de capital et de modèles prédictifs leur permettant d'évaluer les probabilités d'un événement. Ils agissent aussi très rapidement, souvent à l'aide d'algorithmes automatisés. Il y en a qui font des millions de transactions. Tu ne fais pas ça à la main avec ton cellulaire, souligne M. Grégoire. Face à ces professionnels, les amateurs ne font pas le poids. Un utilisateur sans expérience ne peut pas simplement placer de l'argent sur les marchés de prédiction et s'attendre à faire des profits. Ce n'est pas un investissement comme sur les marchés boursiers, fait valoir M. Grégoire. L'étude montre que, au net, les perdants sont deux fois plus nombreux que les gagnants sur Polymarket. Toutefois, leurs pertes sont souvent de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de dollars. Ce ne sont pas des gros montants, fait remarquer M. Grégoire. Il y a donc énormément de comptes qui essaient de faire des paris avec de petites sommes d'argent et qui tombent vite dans le rouge. Les marchés prédictifs au Canada. Au Canada, la réglementation en valeur mobilière interdit les paris sur l'actualité, sauf exception. Toutefois, Polymarket demeure accessible au Québec. En Ontario, l'accès est limité, mais la restriction peut être facilement contournée grâce à un réseau virtuel privé. Cela dit, deux entreprises ont obtenu le feu vert de l'Organisme canadien de réglementation des investissements pour proposer des contrats prédictifs au pays. Il s'agit de Wealthsimple et d'Interactive Brokers Canada. Ces autorisations sont toutefois assujetties à des règles précises. Le terme des contrats doit être d'au moins 30 jours pour se conformer à la réglementation. Et les contrats peuvent porter uniquement sur des indicateurs économiques, financiers et climatiques. Cela exclut donc les événements politiques, ou sportif. C'était, sur Polymarket, le top 1% rafle le gros des gains. Un texte de Clémence Pavic, paru le 16 avril 2026 dans Le Devoir.
Quand le couple devient un lieu de danger. Un texte de José Galarneau, paru le 15 avril 2026 dans La Presse. José Galarneau, auteur d'Assis debout couché, en couple avec le bon partenaire de vie, met en garde contre le risque de rester dans une relation où l'agressivité est présente dès le départ, même si les premiers signaux sont subtils. Le récent féminicide présumé d'une jeune femme de 18 ans à Montréal bouleverse. Chaque fois, la même question revient. Comment une relation amoureuse peut-elle mener à une telle issue? Pourtant, dans de nombreux cas, les signes apparaissent très tôt. La violence conjugale ne surgit généralement pas après des années d'harmonie. Elle s'installe progressivement, souvent dès les débuts de la relation. Un ton brusque, une remarque dévalorisante, une jalousie présentée comme une preuve d'attachement, une colère mal contenue face à un désaccord, un besoin de contrôler, d'abord subtilement, les sorties, les fréquentations ou les décisions, un malaise diffus, difficile à nommer, mais bien réel. Ces signaux ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent même être confondus avec de l'intensité amoureuse. C'est ce qui les rend particulièrement trompeurs. Cette réalité touche aussi des adolescentes. Sur le terrain, des intervenants observent une présence croissante de violence dans les premières relations amoureuses chez les jeunes. Ces dynamiques peuvent donc s'installer très tôt, dès les premières expériences du couple, puis s'enclenche un cycle. L'agression est suivie d'excuses, de promesses, de gestes d'affection. Le partenaire se montre attentionné, rassurant. Il peut offrir des cadeaux, multiplier les marques d'amour, convaincre que l'épisode ne se reproduira pas. Ces moments entretiennent l'espoir. Ils donnent l'impression que la relation peut retrouver un équilibre. On reprend confiance. Une nouvelle étape d'engagement est franchie. Le partenaire demeure attirant à bien des égards et le désir de continuer est réel. C'est humain de vouloir donner une chance, ou même une autre. Mais partir devient alors plus difficile. On s'attache, on s'investit, on partage un quotidien, parfois un logement, un cercle d'amis, des liens familiaux, des finances, des responsabilités. L'idée de partir devient lourde de conséquences, concrète et émotionnelle. Et la relation continue, mais la dynamique revient. Avec le temps, les moments d'apaisement diminuent et l'agressivité devient la norme. On reste alors un peu plus longtemps. On comprend, on excuse, on espère. Nommer une réalité. Or, les données sont claires. Au Québec, les féminicides présumés se succèdent depuis le début de l'année. 8 au 31 mars 2026. À l'échelle canadienne, une femme est tuée par son partenaire ou un ex-partenaire tous les 6 jours en moyenne, selon Statistique Canada. Et selon l'Institut national de santé publique du Québec, plus d'une femme sur 3 subira de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Les signes sont donc rarement absents. Ils sont souvent minimisés, rationalisés ou replacés dans un contexte qui les rend acceptables. Il est essentiel de nommer une réalité. L'agressivité observée tôt dans une relation n'est pas anodine. Elle n'est pas un détail. Elle n'est pas une phase. Elle révèle une manière de réagir aux frustrations, de gérer les conflits, d'exercer un pouvoir sur l'autre. Lorsqu'une personne se montre agressive dès le début, envers son partenaire ou envers d'autres, cette agressivité ne disparaît pas avec le temps. Elle tend à s'amplifier. Et elle se dirige progressivement vers la personne la plus proche. Le partenaire devient alors le réceptacle des tensions, le point d'ancrage des insatisfactions, le bouc émissaire du mal-être de l'autre. Ce mal-être ne nous appartient pas. On ne peut pas réparer l'autre par amour. On ne peut pas compenser par la patience, la compréhension ou la bienveillance une difficulté profonde à gérer ses émotions. Cette responsabilité revient à la personne concernée. Rester dans une relation où l'agressivité est présente dès le départ comporte un risque réel. Avec le temps, cette agressivité peut s'imposer comme un mode de communication toléré, puis intégré au fonctionnement du couple. S'en éloigner tôt n'est pas un échec, c'est un geste de lucidité. Dans notre manière de parler du couple, nous valorisons l'engagement, la persévérance, la capacité à traverser les épreuves. Mais nous parlons encore trop peu de la nécessité d'évaluer la compatibilité dès les premiers signes, notamment sur le plan du respect et de la manière de gérer les tensions. Une relation saine ne devrait pas exiger d'apprendre à composer avec l'agressivité. Reconnaître ces signaux dès le début n'est pas un jugement hâtif, c'est une vigilance essentielle. Parce qu'un couple ne devrait jamais devenir un lieu de peur. Quelques ressources pour les victimes de violences conjugales et leurs proches. SOS Violence Conjugale. 1-800-363-9010, ligne sans frais, ou 438-601-1211 par texto. Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, Montréal, 514-878-9757. Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, 514-878-9134. C'était « Quand le couple devient un lieu de danger », un texte de José Galarneau, paru le 15 avril 2026 dans La Presse.
La vie après la proche aidance. Un texte de Zone Santé, paru le 7 avril 2026 sur ici.radiocanada.ca. À l'approche du premier anniversaire du décès de son mari, Victoire Allen raconte ses moments auprès de celui qu'elle aimait, même s'il était têtu. Marcel Lejeune vivait avec la maladie d'Alzheimer. « Je ne l'ai jamais obstiné. S'il décidait qu'il allait dans la cave, je lui disais « Vas-y, mais tu sais, il n'y a pas de cave. » Il y allait pareil, partage Victoire. Ce sont des gestes et des paroles qui ont éveillé les soupçons de la famille quant à la santé de Marcel. Ce qui était le plus inquiétant, c'était qu'il partait sans prévenir. Une nuit, il est parti avec l'auto, puis on l'a retrouvé à Chappey. C'est à ce moment que les démarches plus sérieuses ont commencé avec le médecin, explique celle qui ne dormait plus par crainte de ne plus revoir son mari. Avant qu'il soit transféré au Centre d'hébergement de soins longue durée, CHSLD, P12, à Rouyn-Noranda, en 2019, c'est sa femme, entourée de sa famille et de ses amis, qui prenait soin de lui. Marcel Lejeune, qui a travaillé longtemps dans les matériaux de construction, a séjourné à P12 de 2019 à 2025. Donner le bain et tenter de le convaincre d'enfiler des culottes d'incontinence sont des exemples de défis surmontés par Victoire lors des dernières années. Malgré sa perte d'autonomie, elle a fait le choix de ne pas révéler directement à son mari qu'il avait la maladie d'Alzheimer. Elle mentionne qu'il n'aurait pas compris. Ma fille lui disait que j'allais à des réunions pour les personnes Alzheimer, mais il répondait « Il n'y a personne qui fait de l'Alzheimer ici », se souvient-elle avec résilience. Puis est venu ce moment où l'état de santé de Marcel a dépassé les capacités de Victoire à prendre soin de lui. Quand tu vas le porter là-bas et qu'il reste dans sa chambre, puis tu dis « bye-bye » et qu'il sort de sa porte de chambre pour me regarder de loin et me montrer qu'il ne peut pas venir avec moi, ça me faisait mal au cœur, témoigne-t-elle. Éviter le pire. Victoire n'a jamais refusé d'obtenir de l'aide. De l'ergothérapeute à la travailleuse sociale, elle a choisi de lever la main plutôt que de s'isoler. La travailleuse sociale, elle venait pour moi. Mais à un moment donné, elle a dit « Il faut qu'il soit placé, parce que tu es proche du précipice », se rappelle Victoire après un moment de silence. Rejoindre le regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda il y a environ 2 ans fait partie de ses démarches pour garder le cap. Même si mon mari est décédé, je suis avec le groupe de proches aidants de Rouyn-Noranda. J'aime ça parce qu'on a presque toutes vécu la même chose. On est toutes des proches aidantes, alors ça nous aide gros à passer à travers des épreuves quand la personne s'en va. Le regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda lui permet encore aujourd'hui de voyager de Laniel au Témiscamingue, à Malartic en Abitibi, en passant par Guérin et de vivre des expériences alors que les dernières années ont été bien silencieuses. Victoire a su s'entourer de personnes pour poursuivre sa trajectoire. Victoire Allen et Marcel Lejeune se sont mariés à l'église Saint-Michel de Rouyn-Noranda le 28 juin 1969. Elle avait alors 20 ans et lui 27. Elle partage les mots soufflés à son mari le jour de son décès. « Marcel, ce soir, tu ne coucheras pas ici. » Celle qui ne pleure plus depuis qu'elle est toute petite, sans en connaître vraiment la raison, a été mariée à Marcel Lejeune pendant 55 ans. Des activités pour se changer les idées. Jean-Louis Mainville est né à Roquemaure, en Abitibi-Ouest. La famille occupe une place importante dans son cœur. Elle a choisi le jour de la femme, le 8 mars 2023. C'est ainsi que Jean-Louis Mainville parle du départ de sa femme, Fleurette Beauparlant. Un départ doux, entouré de ses enfants. Il a pris soin d'elle pendant plusieurs années. Sa santé était fragile. En plus d'avoir une dégénérescence maculaire, elle était malentendante. Dans les derniers temps, son état s'est dégradé à la suite d'une hernie discale. Malgré cette chute abrupte, Jean-Louis parle avec amour de cette femme qui avait une grande écoute. Sa Fleurette. Fleurette Beauparlant était infirmière de formation. Jean-Louis Mainville garde sa photo au mur tout près d'un poème de Félix Leclerc sur la vieillesse. C'était de l'accompagner dans ses besoins, ses soins. C'était de la nourrir, faire le lavage, l'accompagner dans ses sorties et même l'amener à des spectacles, partage-t-il. À travers tout ça, je me réservais quand même du temps. Je participais à beaucoup de choses. Le lundi, c'était le tai chi. Le mardi, c'était la chorale. Le mercredi, c'était l'espagnol. Le jeudi, c'était les proches aidants. À l'approche de ses 80 bougies, il prend toujours soin de sa sœur, qui est en résidence depuis 12 ans. Il va la voir 2 fois par semaine au 2e étage de Notre-Dame du Sourire pour lui apporter son petit café. C'est triste à dire, mais c'était le temps qu'elle parte, sinon c'était moi qui rentrais à l'hôpital. Il aurait fallu que j'aie un répit. Quelques heures ne suffisaient plus, exprime-t-il avec tristesse. Le gym cerveau. Victoire Allen et Jean-Louis Mainville ont parlé de l'importance de faire travailler le cerveau. Le regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda propose une série d'exercices pour garder les sens éveillés. Membre du regroupement des proches aidants de Rouyn-Noranda depuis 2022, Jean-Louis Mainville tient à ce que le groupe soit davantage connu Il raconte avec humour être bien entouré. Je me ramasse avec 30-quelques bonnes femmes, tout seul d'hommes. Il y en a qui viennent de temps en temps, mais la plupart du temps, je suis tout seul. On s'agace, puis on a bien du plaisir. On fait du gym cerveau. Je le prépare ici, on le corrige ensemble là-bas, explique-t-il. Et si c'était à refaire? C'était « La vie après la prochaine danse », un texte de Zone Santé paru le 7 avril 2026 sur iciradiocanada.ca.
Quelles sont les nouvelles habitudes de voyage des Québécois? Un texte d'Annabelle Caillou paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? Les séjours aux États-Unis ont chuté à 13 % à l'été 2025 en raison des tensions Ottawa-Washington. 71 % des voyageurs québécois ont choisi le Québec, un léger recul par rapport à l'été 2024. Seulement 6 % à 13 % des voyageurs québécois adoptent des gestes écologiques concrets. Entre inflation, tensions commerciales et soif d'ailleurs, les habitudes de voyage des Québécois ont évolué l'an dernier. Le Québec demeure une valeur sûre, mais cède peu à peu du terrain au reste du Canada, tandis que les séjours aux États-Unis chutent. Quatre tendances à retenir de la plus récente étude de la chaire de tourisme Transat sur les comportements des voyageurs. Les États-Unis boudés, le reste du Canada en profite. Les tensions entre Ottawa et Washington ont refroidi l'intérêt pour les destinations américaines. À l'été 2025, seulement 13 % des répondants disent avoir traversé la frontière, contre 23 % l'été précédent. Le reste du Canada en bénéficie. 31 % des voyageurs ont visité une autre province durant la saison estivale, contre 25 % en 2024. Le Québec demeure populaire, mais en léger recul. 71 % des voyageurs ont fait au moins un séjour dans l'une de ces régions, contre 79 % un an plus tôt. Les voyages internationaux hors des États-Unis restent stables à 36 % La baisse des séjours estivaux dans la province est une première, note Marc-Antoine Vachon, professeur en marketing à l'ESG UQAM et titulaire de la chaire de tourisme Transat. Depuis 4 ans, il s'intéresse aux habitudes de voyage des Québécois et mène cette vaste étude. Ce n'est pas alarmant, mais c'est un drapeau jaune. Cette baisse va-t-elle continuer? Va-t-on voir une tendance? Ça va être à surveiller, indique-t-il. Méthodologie. L'étude Tendances et comportements des voyageurs québécois est menée par la chaire de tourisme Transat depuis 2022. 16 organismes et entreprises du milieu touristique ont collaboré à l'édition 2026 afin d'élargir l'étendue du sondage. Celui-ci a été mené en ligne du 17 au 25 novembre 2025 auprès de 3055 Québécois ayant passé au moins une nuit hors de chez eux dans l'année précédente. Le Québec, un refuge. Malgré ce recul, près des trois quarts des voyageurs ont tout de même choisi le Québec dans la dernière année. Les séjours sont généralement de courte durée. 48 % des répondants disent être partis pour une ou deux nuits. Ils accordent une note moyenne de 3,86 sur 5 à leur expérience et de 3,64 sur 5 au rapport qualité-prix. Par ailleurs, 71 % souhaitent revenir dans la région visitée. Avec la pandémie, on a créé un réel intérêt pour le Québec. Mais on sent que les Québécois se demandent s'ils en ont pour leur argent. Il faut travailler à enrichir leur expérience, souligne M. Vachon. Le voyage, un pilier du bien-être. Pour 62 % des répondants, voyager contribue à améliorer leur santé mentale. Un chiffre que M. Vachon juge bas.
Beaucoup de gens ne mesurent pas à quel point le voyage contribue à leur bien-être. Toute déconnexion est bénéfique, même si c'est juste une ou deux nuits, soutient-il. Plusieurs l'ont compris et multiplient les micro-séjours. Le phénomène du « blazer », contraction de « business » et de « leisure », gagne notamment du terrain. 42% des répondants ont affirmé avoir prolongé un déplacement professionnel à des fins d'agrément en 2025, contre 25% en 2024. D'autres profitent des nouvelles habitudes de télétravail pour décrocher plus longtemps. 22% des répondants ont prolongé un séjour grâce au télétravail, contre 13% en 2024. Avant, c'était une semaine dans le sud ou rien. Aujourd'hui, on va chercher ces micro-pauses, on part au chalet la fin de semaine et on prolonge quelques jours sur place, indique M. Vachon, notant toutefois que le retour au bureau pourrait freiner cette tendance. Cette volonté de voyager se reflète aussi dans les dépenses prévues pour 2026. 38% considéraient qu'il s'agit d'une dépense prioritaire en 2025, contre 33% il y a 4 ans. Par ailleurs, 26% des voyageurs ne prévoient aucune mesure pour réduire leurs coûts, limiter les repas au restaurant, diminuer les attractions payantes ou choisir des destinations proches, contre 14% en 2024. Et la proportion de gens qui comptent choisir des hébergements ou restaurants plus abordables a chuté de 41% à 29%. L'environnement, toujours secondaire. Malgré l'urgence climatique, peu de voyageurs, entre 6% et 13%, disent faire des gestes concrets pour réduire leur empreinte environnementale, comme la compensation carbone, des hébergements durables ou des transports moins polluants. Les chiffres stagnent depuis 4 ans. On a atteint un plateau et il reste bas, déplore M. Vachon. Plus préoccupant encore, la proportion de voyageurs affirmant modifier leur comportement en raison des changements climatiques recule pour la première fois depuis le début de l'étude, passant à 22% contre 27% en 2024. Il faut des effets concrets, comme les risques météo extrêmes, pour influencer les voyageurs dans leur planification. C'était « Quelles sont les nouvelles habitudes de voyage des Québécois ?» Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 31 mars 2026 dans Le Devoir.